J'aimerais que vous preniez avec moi deux lectures. Galates chapitre 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier, selon la promesse. Amen. Une deuxième lecture dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 21. Ou plutôt chapitre 20, au verset 11. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis, la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. » Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et nous disons Amen. Amen. J'aimerais remarquer dans la première lecture que nous avons faite aux Galates, au chapitre 3, si vous avez gardé la page, deux mots importants à mes yeux, deux choses. Le premier mot, c'est le mot héritier. Je vous relis ce verset. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Et le mot que j'aimerais retirer en premier, c'est le mot héritier. D'après ce qu'on a lu dans Apocalypse, qu'est-ce que vous pensez de l'héritage de Dieu ? Nouveaux cieux, nouvelle terre, qu'est-ce qu'il est dit ? Il est dit qu'il n'y aura plus aucune larme sur nos yeux parce qu'elles seront essuyées. Il dit que la mort ne sera plus, il n'y aura plus de deuil. Il n'y aura plus ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Il n'y aura plus de vol, plus besoin de mettre des serrures à nos portes. C'est sympa ça, non ? Plus avoir peur d'avoir oublié quelque chose en vue dans la voiture, de l'argent, un portable, quelque chose. Plus tout ça. Il n'y aura plus de mensonges, on ne sera plus trompé. Et nous-mêmes, eh bien, nous ne ferons plus de mensonges. Déjà sur la terre, on y est appelé. Hein ? Il y a toutes ces choses, plus de meurtres. Plus peur de la mort, puisqu'on sera éternel. Il est dit à celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la vie. De l'eau de la source de la vie. La vie éternelle. Nous goûterons un arbre qui nous donnera la vie éternelle. Nous goûterons un arbre dont les feuilles serviront à la guérison des nations. Plus de maladies, plus aucune. Toutes ces choses auront disparu. On se fera plus bobo, tout ça. Qu'est-ce qui se passe ? Nouvelle terre, nouveaux cieux. Comment il va être ? Hein, ce beau terrain, cette belle ville toute faite de pierres précieuses, etc., l'héritage, il est immense. Autant, on peut voir des images un peu matérielles, une ville extraordinaire, et elle est décrite de manière matérielle, mais on peut voir surtout aussi un bonheur parfait, qui ne s'arrêtera jamais, un bonheur éternel. Qui a envie de cet héritage ? Oui, on veut tous du paradis, comme on l'appelle, dans le monde. C'est vrai que le paradis, c'est dans la présence de Dieu, mais après, il y aura une nouvelle terre, nouveaux cieux. Il y aura toutes ces choses qui seront faites, ça sera merveilleux. On veut tous de cet héritage. On veut tous. Mais le verset, le texte qu'on a pris juste avant nous dit quelque chose de très précis et de très, très important. C'est le thème du message ce soir. Il est dit, il n'y aura plus ni homme ni femme, car vous êtes un, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et j'aimerais nous poser une question qu'on pourrait donner comme titre à ce partage. Es-tu à Christ ou vis-tu pour toi-même? Est-ce que tu es à Christ? On dit souvent, Jésus est à moi. Ah, les bénédictions de Dieu sont pour moi. Dieu est riche pour moi, Dieu est bon pour moi, etc. Pour moi, pour moi, pour moi. Et est-ce qu'on n'oublie pas un peu des fois qu'on doit être à Christ? Je ne m'appartiens plus, je suis à mon Seigneur. Une question. Pour obtenir cet héritage, il faut être à Christ. Il faut lui appartenir. Il faut vivre pour lui. Il faut le faire passer en premier dans notre vie, car c'est lui qui est concerné par la promesse. Et dans Galates, si on avait lu un peu avant, je vous fais la lecture. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités », ça c'est Paul qui parle, hein, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ, c'est comme ça qu'il le dit. La promesse, elle est faite à Christ. Moi, j'ai toujours cru, comme les Juifs, jusqu'à présent, à l'époque, il le disait à Jésus, nous sommes la postérité d'Abraham, la promesse est pour nous. Mais là, Paul, aux Galates, précise quelque chose de très important. La promesse, elle est à Christ et ceux qui sont à Christ. Et si nous ne vivons pas pour Christ, si nous ne lui appartenons pas en propre et nous ne vivons pas pour lui, alors la promesse n'est pas pour nous. C'est pourquoi beaucoup de Juifs, de l'époque déjà, étaient en dehors de la promesse, même s'ils étaient de la descendance d'Abraham par la chair et par le sang. Et on sait que dans les derniers temps, le peuple d'Israël, avec les 10 tribus perdues, reviendront, et puisqu'ils iront à Christ et qu'ils reconnaîtront Christ comme le Christ, le Messie, Jésus comme le Christ, eh bien alors ils auront part à nouveau à la promesse, ils seront greffés à nouveau, eux qui ont été retranchés. Il y aura un retour d'Israël. Suis-je tout à Christ? Suis-je tout à Christ? C'est une question sérieuse. Pour qui je vis? Et chacun d'entre nous, si on veut dire, eh bien moi je sais que je vais au ciel, il faut que je puisse répondre à cette question. Pour qui je vis? Ce matin en me réveillant, je me suis vraiment posé cette question pour moi. Jérémie, pour qui tu vis? Et j'ai remarqué que régulièrement, il va falloir que je fasse le point pour remettre les priorités à leur place. Pour ne jamais oublier pour qui je vis. En plus, dans le ministère, il est dit que Dieu nous a pris, a fait de nous des esclaves pour Christ en faveur de l'Église et qu'il nous a donné à l'Église. Donc ceux qui sont dans un ministère particulier, Dieu dit dans Corinthiens, dans Éphésiens, pardon, qu'il nous a pris comme esclaves et qu'il nous a donné à l'Église. Donc je suis votre serviteur. Encore ce soir, et de la part du Seigneur, je vous pose cette question. Pour qui tu vis? Quel est ton but dans ta vie? Si tu veux pouvoir t'endormir en paix, si tu veux pouvoir avoir un cœur tranquille, vivre eh bien, dans la paix, être sûr d'aller au ciel, si tu veux arrêter de t'inquiéter, arrêter de remettre en question toujours ton salut, eh bien alors vis pour Christ. Sois à Jésus et à personne d'autre, même pas à toi-même. Ne sois plus à toi-même. Quand on se marie, on ne s'appartient plus, on appartient à notre épouse. C'est ce qui est écrit. Et de la même manière, quand on accepte Christ comme notre Sauveur, notre Seigneur, il nous faut comprendre qu'on ne vit plus pour nous-mêmes, on vit pour Jésus. Et l'idéal, c'est qu'un couple, ensemble, nous soyons à Christ. Comme ça, on va aller tous les deux dans la même direction. D'accord? C'est pourquoi Dieu dit, vous ne mettez pas sous un joug étranger. Ne faites pas d'attelage disparate. C'est ça que ça veut dire. S'il y en a un qui va dans une direction et l'autre dans l'autre, si on est sous un même joug, dans une alliance, comme le mariage, eh bien ça ne va pas faire bon ménage. Il va y avoir des disputes, d'où le conseil de Dieu. Et j'ai voulu prendre pour ce soir deux personnes comme exemple. Deux hommes qui à un moment se retrouvaient dans la même circonstance, dans les mêmes situations, et pourtant qui ont eu deux chemins tout à fait différents. Lequel allons-nous vouloir être à la fin de cette réunion, en partant? On est en train de se poser des questions. Et j'aimerais que vous puissiez vraiment répondre et prendre une décision, rectifier le tir s'il y avait quelque chose à rectifier. Ces deux hommes étaient dans la même situation, ils étaient au service de Jésus sur la terre. Avec Jésus sur la terre. Le premier s'appelle Pierre. Pierre, cet homme qui a servi le maître sur la terre. Un homme maladroit. Quelquefois, il répond vite, il parle vite, il agit vite, il tranche les oreilles. Ça, c'est Pierre. Un homme un peu maladroit quelquefois, un peu excessif aussi. Mais entier. Un homme qui est entier à son Jésus, à son Seigneur. Il est à Christ, malgré ses maladresses, malgré ses torts. On voit qu'à chaque fois, le Seigneur le rattrape. À chaque fois, il revient au Seigneur. Il a bien des défauts et j'ai relevé trois périodes, trois exemples dans sa vie. On pourrait peut-être en trouver d'autres. Je vous laisse soin de chercher, mais j'ai relevé trois choses. La première, Jésus va leur dire « traverser la mer » aux disciples. Ils sont ensemble. Il dit « traverser la mer ». Pierre est dans la barque, il traverse, et puis à un moment, il y a la tempête. Et il voit un homme marcher sur l'eau. Ils ont peur, ils croient au fantôme. « Oh, un fantôme !» Et puis Jésus arrive, il dit « mais vous inquiétez pas, ce n'est que moi. » Qu'est-ce qu'il va dire, Pierre ? « Si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi sur l'eau. » Qu'est-ce qu'il répond Jésus ? Tout simplement, viens, un mot, viens. Il est courageux, hein, Pierre. Des fois, il ne réfléchit pas à ce qu'il dit. Je crois qu'il a quand même réfléchi, là, puisqu'il l'a fait. Il a dû être surpris de la parole. Viens. Waouh, qu'est-ce que j'ai dit, là? Et il a fait le pas de foi. Il n'a pas engendré la barque, mais enjambé la barque. Un jour, mon père, il prêchait, il disait, « Et Jésus et pas, et Pierre qui a engendré la barque !» Non, il a enjambé la barque. Il enjambe la barque. Et il va pour toucher. Et voilà que l'eau, elle est dure, solide sous son pied, elle le porte. Je voudrais bien être Pierre. Hop, et il va, hop, il enjambe, et il commence à avancer. Et qu'est-ce qui se passe? Il regarde un peu le vent qui souffle autour de lui. Il voit que, oula, il y a de la brise ce soir, hein, il y a du vent comme vendredi soir, de la tempête. Et d'un coup, il s'est mis à s'inquiéter et à avoir peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est enfoncé. Et lui qui vient de dire à Jésus, ordonne que je marche sur l'eau, ordonne que je vienne vers toi. Jésus va lui répondre, juste après ça, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alors moi, si lui, il n'a pas de foi, alors je ne sais pas où j'en suis pour marcher sur l'eau, vous voyez? Mais il a douté. Homme de peu de foi, souvent on croit que c'est une quantité de foi. Mais le Seigneur Jésus, il dose peut-être notre foi en fonction du temps qu'on résiste à l'épreuve. Dieu voudrait nous faire gagner en patience. Dieu voudrait nous faire gagner en endurance. Quelle endurance as-tu? Tu pourrais peut-être dire, moi j'ai une foi immense, je fais confiance au Seigneur. Mais si l'épreuve est dure et que tu ne vois pas Jésus agir dans ta vie, vas-tu persévérer, continuer à croire, continuer à t'attendre à lui, continuer à rester en paix, choisir de rester en paix, de lui faire confiance, même si les choses s'affolent autour de toi? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Deuxième exemple, à un moment, Jésus pose la question, que dit-on, qui dit-on que je suis? Puis certains disent, voilà, tu es Élie le prophète, etc. Et Simon va dire, oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant et vrai. Ah. Toi, Simon, tu as une grâce de Dieu. Tu as compris quelque chose. Et ce n'est pas la chair, le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans les cieux par son esprit. Hein? Quelle belle parole Pierre vient de dire. Vous savez ce qu'il dit juste après? Jésus dit, voilà, juste après, le verset qui suit, j'ai noté toutes les références, Matthieu 16, versets 13 à 17, et Matthieu 16, 21 à 23. Les versets se suivent. Juste après, Jésus dit, voilà, il va falloir que je sois crucifié, et quand je serai ressuscité des morts, etc. Et lui, il arrive, il dit, à Dieu ne plaise. Ça veut dire, même si ça ne plaît pas à Dieu, tu ne mourras pas. C'est ça que ça veut dire, à Dieu ne plaise, non? Même si ça ne plaît pas à Dieu, tu ne mourras pas. Moi, je te défendrai. Tu as entendu? Moi, je ne t'abandonnerai pas, je serai là. Vous avez vu comme quoi, des fois, il parle vite. Pierre, quand il a renié Jésus, il a fait ce qu'on appelle des imprécations, souhaiter le malheur de quelqu'un. Pierre est allé loin, loin dans ses paroles. À Dieu ne plaise. Et Jésus lui répond, juste après, il lui a dit, c'est l'Esprit qui t'inspire. Et là, il dit, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont celles des hommes. À Dieu ne plaise. Il va dire des choses folles. Des fois, il se précipite, il ne réfléchit pas. Mais il est entier. Il est entier. Et l'exemple que je viens de citer, le troisième, si tous te reniaient, si tous t'abandonnaient, moi, je ne t'abandonnerai pas. Et tous les autres disciples suivent, nous non plus, on ne t'abandonne pas. Nous aussi, on ira avec toi. Et juste après, Jésus lui dit, tu vas me renier trois fois. Tu vas me renier. Il dit, non, t'inquiète pas, je te renierai pas. Quelques minutes après, quelques heures après, j'en sais rien, mais dans la même journée, voilà que Pierre renie Jésus trois fois et qu'il entend le coq chanter. Pierre, c'est un fougueux, c'est un bouillant pour le Seigneur, mais il avait besoin d'être cadré. Je vais donner un quatrième exemple, mais qui est post-résurrection, après la résurrection de Jésus. Pierre est bouillant, lui, il veut vraiment faire la volonté de Dieu. C'est vraiment le disciple du Seigneur. Lui, il est entier. Il est à Christ, il veut vivre pour le Seigneur Jésus. On voit qu'après avoir renié, bien sûr, Jésus va lui dire « M'aimes-tu ?» par trois fois, et il va lui dire « Voilà, paie mes brebis. Sois berger, sois pasteur. » C'est ça que ça veut dire. Et dans Galates, encore, il nous est dit au chapitre 2 que Paul, à un moment, a dû résister à Pierre. Il a dû lui résister en face. Et il lui a même fait des reproches devant tout le monde. Quand vous lisez, on va le lire ensemble, Galates chapitre 2, parce que je vois les sourcils se froncer. Eh oui, ça arrive des fois, les incompréhensions et les imperfections, même chez les hommes de Dieu. Je crois que vous le saviez. Galates chapitre 2, verset 11. C'est Paul qui parle, et il parle aux Galates donc. « Mais lorsque Céphas, donc Pierre, vint à Antios, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ?» Vous voyez bien que c'est vrai ce que je vous ai dit. À un moment, Paul qui est venu à Antioche avec Barnabas, il voit Pierre qui mange avec les païens, lui qui est juif. La loi disait qu'il était interdit à un juif de manger avec des païens. Mais entre-temps, il y a eu Corneille. Pierre a rencontré Corneille et il a bien vu que Dieu ne fait plus de distinction comme cela. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Pierre mangeant avec les païens, d'un coup, ils reçoivent la visite de juifs de Jérusalem. Ouh! D'un coup, il se met à l'écart, il s'esquive, il ne veut pas qu'on voit qu'il mange avec des païens. Par crainte de la loi, par crainte des circoncis. Et Paul lui dit, mais c'est de l'incrédulité, c'est de l'hypocrisie ça. Quand ils ne sont pas là, tu manges, et puis dès qu'ils arrivent, tu vas te cacher. Et à cause de toi, il y a d'autres juifs qui font pareil, et à cause de toi, mon disciple, celui que j'ai pris avec moi, Barnabas, il fait pareil, il est tombé dans ton travers. Et devant tout le monde, il leur dit, si toi, qui es juif, tu vis à la manière des païens, pourquoi tu les pousses, eux les païens, à judaïser, à faire comme les, à revenir à la loi. Et tout l'épître de Galates explique qu'il ne faut pas qu'on s'appuie sur la loi, mais sur la foi, qu'on garde en tête que le salut est donné par la foi et non par la loi. Bref, Paul dit, je lui résistais en face, et il lui a parlé devant tous, il lui a fait des reproches. Mais Pierre voulait tellement bien faire qu'il a dit, oulala, là, il y a la loi, là, il y a si, et il se mélange, même après la résurrection de Jésus. Pierre a toujours été comme ça. Pourtant, il a vu des miracles. Pourtant, il a fait des miracles. Pourtant, il a fait toutes sortes de choses. Il a vu des choses avec Jésus. Il a même vu Jésus transfiguré. Il a vu des choses extraordinaires que nous ne verrons jamais, physiquement parlant. Jésus sur place, on ne le verra jamais physiquement, à moins que. On ait une vision comme Paul a eu, mais sans quoi. Il a vraiment vécu quelque chose de particulier. Et pourtant, il a des faiblesses. Mais on ne pourra jamais lui enlever ça. C'est qu'il est à Christ. Et pour vraiment m'imprégner de la pensée de Pierre, de connaître un peu le personnage, j'ai lu les épîtres de Pierre cet après-midi, et dans 1 Pierre, j'ai remarqué quelque chose. Il est parlé de la souffrance qu'implique la marche pour Jésus. La souffrance qui est derrière, la persécution, la moquerie, la haine que le monde a envers ceux qui marchent droitement. Il va dire à un moment, mais le monde ne vous reconnaît pas, il ne comprend pas pourquoi vous ne marchez pas dans leur débauche, dans tout ça. Et il va vous juger, il va vous critiquer, il va vous mettre à l'écart, il va vous persécuter. Mais vous, soyez heureux de cela. Gardez le cap. Je le Là, je paraphrase. Dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 16. « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » La gloire aussi, il parle dans cette épître, la première épître, la gloire qui suit la marche pour Christ. Il dit, si vous avez quelques souffrances par lesquelles vous passerez forcément, le fait d'abandonner certains amis qui ne sont pas en Christ, qui ne vous emmènent pas vers le bien, le fait que vous soyez critiqué, pas compris des autres, je vous dis quelque chose quand même. Il y a une gloire, il y a une récompense. Il va même dire, il y a un héritage, le fameux, auquel nous aspirons. Il va dire dans le chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Ne rendez point le mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Et au chapitre 3, verset 7, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Comme quoi la vie en famille, la vie en couple, eh bien, interfère sur la réponse de Dieu à nos prières. Et dit, montrez de la sagesse, prenez soin d'elles. Honorez-les, parce que vous savez qu'elles aussi, elles auront héritage à la même grâce que vous et à la vie éternelle. Quelqu'un me demandait des conseils dernièrement, parce que c'était une personne qui fréquentait et qui voulait se fiancer et se marier. Jérémy, quel conseil tu as pour moi ? Oula. J'ai réfléchi, j'ai prié, et en demandant conseil aussi autour de moi, il y a quand même quelque chose qui m'est venu à cœur. J'ai dit, même quand tu seras marié, même quand tu vivras depuis plusieurs années, n'oublie jamais qu'avant d'être ton épouse, c'est aussi ta sœur en Christ. Respecte-la pour ça. Respecte-la. Parce qu'à une sœur en Christ, on ne lui parle pas comme à un ami avec qui on aurait fait beaucoup de... Je ne sais pas, on aurait vécu beaucoup de choses, on ne se permet pas les mêmes choses. À une sœur en Christ, jamais vous allez lui parler mal, jamais, en tout cas je l'espère, jamais vous allez user de mots rabaissants, humiliants. Et combien de couples, même dans l'église, j'entends parler et dire, voilà, toi, de toute façon, j'en ai marre, tu me saoules. Jamais j'ai dit ça à mon épouse. Jamais j'ai dit, j'en ai marre. Jamais j'ai dit, j'en ai marre de toi, ou tu me saoules, tu m'énerves. Jamais j'ai dit ça. Que Dieu me garde de le faire. Que Dieu me garde. Parce que c'est aussi ma sœur. J'oublie pas. Ça m'aide, quelquefois. Ça m'aide. Veillons à nos rapports. On ne doit pas se rabaisser les uns les autres. Et même si ça fait des années qu'on se connaît, et qu'on connaît les pires erreurs, les pires défauts de l'autre, surtout mon épouse, elle pourrait vous parler de moi, hein. Eh bien, respectons-nous comme étant des frères, des sœurs aussi. C'est ce qu'il dit, là, Pierre. Il dit comme elle aussi, devant hériter du même héritage que vous. Dans 2 Pierre, la deuxième épître, on voit un moment, il se souvient de la transfiguration. Il se rappelle, il dit, mais moi j'ai vu ces choses, j'ai vu Jésus transfiguré, et je sais qu'il va revenir. Et tout ce qu'on va voir dans le ciel, ça va être formidable, formidable, extraordinaire. Et Pierre, il rappelle ces choses et il exhorte. Et il nous parle de l'avènement du Seigneur dans cette deuxième épître. Du retour du Seigneur, de la fin des temps. Il dit aussi, soyez sur vos gardes, car l'ennemi rôde. Il y aura des faux docteurs, des faux prophètes. Et au chapitre 3, verset 13, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Amen. Il rappelle ces choses. On voit comment Pierre termine sa vie. C'est en l'an 66-65 qu'il écrit ses épîtres. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas quel âge il avait à cet âge-là. Je sais pas, à 30 ans, il est trouvé en train de prêcher. On va dire qu'il avait à peu près le même âge que Jésus. 30, plus 20, 50, 60 ans, 60, 70 ans, je sais pas. Il sait que sa vie va s'arrêter d'un coup, puisque Jésus l'a prophétisé sur sa mort et sur la fin de sa vie. Il le dit lui-même dans sa deuxième épître. Il dit, je sais que ma vie va s'arrêter d'un coup, selon ce que Christ m'a dit. Mais ce que je veux faire, c'est garder l'espérance. C'est garder les yeux fixés sur Jésus. Et garder l'évangile conforme, ne pas me laisser aller par des fables, par toutes sortes de choses, comme le dit Paul, et comme le dit aussi l'épître de Tite. Et la deuxième personne que j'aimerais mettre en avant, qui est tout à fait à l'inverse de Pierre. Pierre avait beaucoup de défauts, mais il était entier au Seigneur. L'autre, bien sûr, les disciples qui étaient aussi au service de Jésus, c'est Judas. Judas. Judas usait de stratégie. Judas usait de malice. Il vivait pour ses propres objectifs. C'est clair quand on voit certains textes, je vous en lis. On peut les lire ensemble, allez. Dans Jean, chapitre 12. Jean, chapitre 12, versets 3 à 6. Jean piqué dans la caisse du Seigneur. Pas Jean, pardon, Judas. Je fais un livre apocryphe, désolé. Judas. Alors regardez, Marie, ayant pris une livre de parfum de nard, pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum, 300 deniers, pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non de ce qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait dedans. Judas, il a dit, tiens, imaginez-vous la manigance, en quelques secondes, ce qui lui est passé par la tête. Je vais faire des reproches, non pas pour dire que je vais prendre, que j'en ai besoin, mais je vais dire qu'il faut s'inquiéter des pauvres. Alors qu'en fait, il ne s'inquiète pas des pauvres, il s'inquiète surtout de ce qu'il pourra récolter derrière. Judas, volé dans la bourse du Seigneur Jésus. Dans Matthieu, chapitre 26, verset 14. Alors, l'un des douze, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner ? Et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Cet homme avait vraiment un souci avec l'argent. Il était vraiment cupide. Il était vraiment... Ça lui brûlait les doigts. Il ne pouvait pas s'empêcher de trouver une solution pour trouver de l'argent. Il a même trouvé la bonne idée, enfin l'idée, vraiment pas bonne, de vendre Jésus pour le prix d'une esclave femme. Il a accepté de mettre Jésus au rang d'esclave, ce qu'il s'est fait de lui-même, bien sûr, mais femme en plus, puisque les hommes étaient vendus plus cher. Il a vraiment humilié Jésus au plus haut point. Tout ça parce qu'il voulait de l'argent. Et il a tout fait du début à la fin, on voit qu'il a tout fait pour ses propres besoins, pour son propre enrichissement, pour lui. Judas était cupide, et égoïste. Il avait beau être près de Christ, comme nous sommes peut-être près de Jésus ce soir, on l'a entendu, il est au milieu de nous, c'est en son nom que nous nous sommes rassemblés. Il était même un disciple de Christ, peut-être certains se sont fait baptiser, on dit « moi je vais être disciple de Jésus-Christ ». Il était même un privilégié, comme nous on peut être privilégié d'être béni dans notre vie, d'avoir un travail, d'avoir une voiture, d'avoir la climatisation dans notre assemblée, et toutes sortes de bénédictions que Dieu multiplie envers nous. Il était béni de toutes sortes de bénédictions, il a vu des miracles, il a peut-être fait des miracles quand il a été envoyé prêcher avec les 70 disciples, il a vu Jésus en personne, il a été formé par Jésus en personne pendant plusieurs années, il a prié, il a mangé, il a jeûné, il a voyagé, il a partagé des moments incroyables avec Jésus-Christ, et pourtant, il a continué à vivre pour lui. Et je ne veux pas que ce soit on reparte dans la même position. Se dire, se croire disciple de Jésus, et l'être vraiment, puisqu'il l'était vraiment. Voilà, à l'école de Christ, vouloir être enseigné, etc. Être proche de Jésus, voir des miracles dans l'assemblée, être au contact de l'évangile, être dans la communion fraternelle, avoir plein de belles choses, peut-être même participer pour faire un miracle au nom de Jésus, peut-être faire toutes sortes de choses, voyager au nom de Jésus, aller en mission, jeûner, prier, faire toutes sortes de choses. Et à côté, continuer à vivre pour soi et ne pas être à Christ. tout en étant proche du Seigneur, il était loin de sa volonté pour lui. Croyez-vous que Jésus avait une autre volonté pour Judas ? Moi, je crois que Dieu ne voulait pas que Judas finisse comme ça, se pendre, se tuer en se pendant. Jésus avait un bon projet. Jésus avait des plans merveilleux pour Judas. Jésus a donné une occasion formidable à Judas de se repentir, de parler de son problème à Jésus. Combien de fois il aurait pu se tourner vers Jésus et dire « Écoute, j'ai besoin d'un rendez-vous privé là. J'ai besoin d'un moment particulier avec toi. J'ai besoin d'une intimité particulière avec toi. Je veux vraiment te parler. J'ai besoin de te parler. Il faut que je règle quelque chose. » Combien de fois Judas aurait pu le faire ? Peut-être même y a-t-il pensé. Peut-être même y a-t-il pensé. Quand il entendait Jésus dire aux soldats qui venaient lui dire « Mais que devons-nous faire ? Travaillez, ne prenez rien de plus que votre solde. Contentez-vous de votre solde. » Lui, il était là. Il devait se dire « Mais... Et moi ?» Combien de fois, en voyant cette femme adultère, peut-être, là, ou d'autres personnes qui arrivent au pied de Jésus, qui étaient au bord d'être lapidées, tuées, ou de mourir à cause de la maladie, entendre de la part du Seigneur « Tes péchés sont pardonnés. » Combien de fois Judas aurait pu aller vers Jésus et dire oh, « Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te confesse. Tous mes péchés. Voilà, j'ai fait ça. J'ai pris dans la caisse. J'ai volé. Écoute, je vais m'arranger. Je vais travailler. Je ferai des heures sup s'il faut. Je retournerai travailler, mais je veux rendre. » Je te demande pardon, pardonne-moi Jésus, au moins pardonne-moi et délivre-moi de ce lien, s'il te plaît, prie pour moi. Est-ce qu'il n'aurait pas été délivré ? Mais immédiatement. Immédiatement, parce que Dieu a dit que celui qui crie à lui, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, le délivre de toutes ses détresses. Et beaucoup d'autres choses qui étaient déjà écrites à l'époque, puisque les psaumes ont été écrits bien avant Jésus, sur la terre. Et pourtant, il a continué à vivre pour lui, il cherchait son intérêt, son enrichissement, son confort, sa prospérité. C'était Jésus pour lui. Jésus pour lui. Puisqu'il n'a pas réglé ça pendant qu'il était encore temps, il s'est fait piéger par Satan. Satan avait une porte ouverte. Satan est rentré en lui. C'est le seul homme dans toute la Bible où il est dit que Satan est rentré dans lui. Des gens se retrouvaient possédés, mais lui, il est dit « Satan rentra en lui ». Parce qu'il n'a pas réglé des choses qu'il savait qu'il fallait qu'il règle. Et nous ne voulons pas être dans ce cas. Désobéir à Dieu alors qu'on sait très bien ce que Dieu veut de nous. Pensez-vous qu'il est héritier de la promesse ? Judas ? Ben non. C'est impossible. C'est impossible. Pourtant, il était si proche de Jésus. Si proche de la vérité. Si proche de la lumière. Si proche de la sainteté de Dieu même. Si proche d'une solution, il n'a pas accepté. Il était avec Christ, il était près de Christ, mais il n'était pas à Christ. Il allait dans le temple avec Christ, il faisait toutes sortes de choses avec Jésus, mais il n'était pas à Christ. Il y avait des choses qui avaient de la valeur, plus de valeur à ses yeux, que le Seigneur Jésus. Il était avec Christ, il travaillait pour Christ, il prêchait Christ, mais il n'était pas à Christ. J'aimerais conclure. Je peux voir les plus beaux miracles, entendre les plus beaux discours, vivre les moments les plus forts dans la communion fraternelle, être présent devant les plus beaux miracles du monde entier, voir des résurrections, être visité 1000 fois par Dieu. Mais si je n'appartiens pas à Jésus, si je ne suis pas à Christ, si je ne vis pas pour lui, je ne peux pas dire que je suis héritier de la promesse. Et quand j'ai compris ça en lisant Galates ce matin, je me suis dit, Jérémie, veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Vous savez, quand on sort, on voit des filles qui se prostituent. Toutes, presque à 100%, elles disent qu'elles connaissent les assemblées de Dieu en Afrique, dans leur pays. Elles sont allées dans les églises. Plusieurs se sont faites baptiser. Certaines sont des filles de pasteurs. Et encore plus étrange, certaines disent qu'elles étaient là lors de la résurrection qu'il y a eu avec M. Bonquet, Reynard Bonquet. C'est ce grand évangéliste qui a prêché dans un grand stade. On a amené quelqu'un qui était mort depuis 3 jours. Il a prié, la personne a été ressuscitée. Et plusieurs, M. Galifot pourrait le confirmer, plusieurs ont vu ces choses arriver. Et aujourd'hui, elles sont perdues dans la rue. Et elles savent qu'elles sont loin de Jésus. Qu'elles ne sont pas à Christ. Et quand on leur dit, voilà, bonjour, on est pasteur, on vient vous voir, parce que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu, donc vous en avez de la, vous avez de la valeur à nos yeux. Plusieurs, moi je l'ai vu ça la dernière fois qu'on est sorti, elles prennent leurs cheveux et elles les mettent devant elles. Elles se couvrent parce qu'elles ont honte. Elles savent qu'elles ne sont pas à Christ, malgré tout ce qu'elles ont entendu, malgré tout ce qu'elles ont vécu et tout ce qu'elles ont dit comme engagement. Aujourd'hui, elles ne sont pas à Christ. Est-ce que j'ai vécu dans le passé ? Aujourd'hui, c'est bien, c'est un bon exemple, ça devrait être un trampoline pour moi pour aller plus loin et plus haut avec le Seigneur. Mais ce n'est pas le passé qui va me sauver. Ce n'est pas l'attitude que j'avais dans le passé. Ce n'est pas l'engagement du passé. Même pas celui que j'avais il y a une heure. C'est dans quelle position je suis maintenant. Mon frère, ma sœur, es-tu à Christ ? Vis-tu pour Christ ? Vis-tu pour Jésus ? Est-ce qu'il est ton but dans ta vie ? Une question auxquelles on devrait réfléchir ce soir et partir en ayant pris la bonne décision. Seigneur, jusqu'à présent, peut-être, je n'étais pas à toi. Je vivais avec toi, près de toi, je parlais de toi, j'entendais parler de toi, j'allais près de toi dans l'église, près de des frères, des sœurs. Mais aujourd'hui, je veux comprendre qu'il y a, un défi à relever. C'est d'être à toi pour être héritier de la promesse. Amen. On va courber nos fronts. J'ai fait cette prière ce matin. Tel que je suis, Seigneur, je viens à toi. Prends-moi, sauve-moi de mon égoïsme, de mon péché, de ma misère, encore une fois, Seigneur. Délivre-moi de ce qui m'empêche d'être complètement à toi. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Qu'on puisse chacun réfléchir sur ces choses ce soir. Ces choses qui sont sérieuses, qui effraient peut-être quelques-uns, qui dérangent, qui mettent mal à l'aise, mais je crois qu'ils sont salutaires pour nous. Tu peux dire, je suis avec Christ, je suis avec l'Église, je suis membre d'une Église, mais la question ce soir, c'est est-ce que tu es à Christ ? Est-ce que tu lui appartiens ? Est-ce que tu es à lui et il fait ce qu'il veut de toi ? Est-ce que tu vis pour lui dans ta vie ? Est-ce que tu fais sa volonté ? Est-ce que tu aspires à savoir ce qu'il a envie de faire de toi ? Ou est-ce que tu vis pour toi ? Veux-tu être comme Pierre, avec bien des défauts, mais qui se rattrape, qui est rattrapé par le Seigneur, qui est pardonné, qui est relevé à chaque fois ? Ou est-ce que tu veux prendre le risque de vivre comme Judas ? Qu'il n'en soit jamais ainsi pour nous dans nos vies, pour chacune de nos vies. Amen. Seigneur Jésus, ce soir tu m'as donné de t'apporter quelque chose de grave dans le sens sérieux. Moi-même, Seigneur, je ne me sens pas digne d'apporter ce message, tu le sais. Mais par la foi, je crois que tu me relèves, que tu nous relèves à chacun, que tu nous donnes d'aller plus loin. Je crois que tu pardonnes, Seigneur Jésus. Celui qui vient à toi et qui crie, qui te demande pardon, qui te demande ton secours, ton aide, eh bien, tu lui accordes. Qui serais-tu, Seigneur, si tu demandais quelque chose et que tu ne donnais pas les moyens pour y arriver ? Quel père serais-tu si tu demandais à un enfant de t'obéir, si tu ne lui montrais pas ta volonté et tu ne lui donnais pas les moyens pour lui obéir et la faire. Nous croyons que par ton Esprit Saint, tu peux nous visiter, nous remplir, nous équiper, Seigneur, pour être capable de résister au diable, de résister aux tentations, pour être capable de nous relever lorsque nous tombons, pour être capable de continuer à croire en toi, à espérer en toi, et à te faire confiance, à savoir que tu veux le meilleur pour nous, pour être capable aussi de te confesser à chaque fois nos faiblesses, pour que tu puisses nous rendre forts. Seigneur, que ces moments ne servent pas à nous écraser, ou surtout pas, Seigneur, ce n'est pas le but. Mais que ces moments nous servent à réaliser notre pauvreté, notre faiblesse, et à crier à toi, à dépendre de toi, pour pouvoir relever la tête, et aller plus loin, te servir toujours d'une manière plus fervente, plus courageuse pour toi, rempli de ta force, rempli de ta puissance, de ton onction, chacun, pour pouvoir parler de toi, être un témoin dans ce monde qui se perd et qui vit dans les ténèbres. Je ne veux pas être près de la lumière. Je veux être une lumière, Seigneur, parce que je serai à toi, et tu seras en moi, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à vivre pour toi. Ô Seigneur, je suis sûr que tu ne veux pas que nous soyons des ermites. Tu ne veux pas nous éloigner, nous diviser de notre épouse, de nos enfants. Tu ne veux pas qu'on ait plus de vie de famille, mais Seigneur, tu nous demandes quand même, certaines choses. Donne-nous le courage de les faire et de les chercher dans ta parole. Parce que tu nous aimes et tout ce que tu veux, c'est nous donner l'héritage que tu as promis. Je veux cet héritage, Seigneur. Je ne veux pas être privé. Et je veux qu'il en soit comme cela pour chacun d'entre nous, Seigneur. Alors s'il te plaît, pitié de nous. Fais-nous grâce, Seigneur. Ce mot est peut-être fort, et pitié de nous, mais c'est mon cri ce soir pour chacun d'entre nous. Amen.